trabajador accompagne à todos sus versos.
Alors, je suis en studio ce mercredi soir avec Sébastien. Sébastien, anciennement de Combit.org, puis maintenant avec la CTA, Syndicat Buenos Aires. Attends que. Bon, on va voir si je me fous dedans ou non. C'est la Centralos de los Trabaj. On voit que je parle vraiment
c'est
pas espagnol.
La Central de los Trabajadores de l'Argentine.
Oui, ça.
C'est la Central des Travailleurs Argentins.
Merci. Plusieurs années que tu es en Argentine. Hein?
Oui, ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis en Argentine. Et wow. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je suis avec la CTA.
Que juste pour faire la mise en contexte avant de sauter dans ton histoire particulière, peux-tu nous parler un peu du contexte syndical en général en Argentine? Ça a l'air de quoi? Tu penses que tout le monde est conscient ou tu sais, on connaît la crise de dette qu'il y a eu en Argentine. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la situation des réappropriations d'usines qui a été pendant une époque très, très circulée dans les milieux radicaux ici à Montréal. Peut-être qu'on connaît moins le contexte syndical. Puis c'est quoi la lutte syndicale particulière en Argentine?
Oui, en effet, pour pouvoir bien comprendre le contexte syndical, on doit parler des relations de travail entre les travailleurs et la patronale. Pour le moment, on observe énormément d'abus du côté du non-respect des lois du travail. En fait, on peut facilement voir que les travailleurs sont menacés de sous-contratation, travail au noir, il y a du non-paiement des heures supplémentaires qui est fait. Juste pour donner un exemple, au niveau de l'État, il y a environ 40% des travailleurs qui sont au noir, c'est-à-dire comme tel. Ça, c'est des chiffres assez alarmants, en fait. Si on se glisse plus au niveau syndical comme tel, il y a une persécution, en fait. Chaque groupe qui cherche à s'organiser, du moins dans le secteur privé, quand ils parlent d'avoir des demandes collectives, assez souvent, ceux qui vont désirer s'organiser sont mis à la porte, carrément, et ça va assez rapidement. Donc, on voit vraiment une persécution syndicale à ce niveau-là. Si on peut dire que les lois du travail sont simplement très peu appliquées pour les entreprises privées. C'est vraiment la patronale qui a le gros bout du bâton. Et puis, c'est souvent en profit pour frapper sur tout ce qui s'appelle organisation des travailleurs.
Je pense que quand tu m'as parlé de la CTA, une chose qui m'a vraiment inspiré, en fait, c'était comment ils comprennent les travailleurs puis les gens qu'ils représentent, puis le degré d'ouverture, en fait, de cette définition-là. Est-ce que je peux te demander de parler un peu là-dessus?
En fait, un travailleur pour la CTA peut être actif, peut être sans emploi, peut être retraité, peut être autonome. C'est pas nécessairement une personne ou un travailleur qui va être nécessairement lié à une organisation, à une compagnie comme telle. Donc, ça l'inclut aussi les gens sans emploi, ce qui est comme qui cherchent à revendiquer leurs droits. Et donc, c'est très nouveau, en fait. Ça brise le concept corporatiste qu'ont les syndicats traditionnels envers les travailleurs.
Tu m'avais parlé un peu de comment tu t'es retrouvé au CTA, puis que la CSN, en fait, avait un lien solidaire avec...
Exactement. Moi, j'ai commencé à travailler avec la CTA, en effet. La seconde rencontre du Sommet des Peuples s'est transportée à Mar del Plata, en Argentine, en 2005. Et c'est là que... Moi, j'étais déjà en Argentine à cette date-là. C'est là que ça m'intéressait de participer, parce que moi, j'avais participé au sommet de 2001, en fait, à Québec. Et que j'aimais bien l'effet de pouvoir continuer, de voir comment les Argentins traitaient la chose là-bas. Et puis, c'est là que j'ai rencontré les gens de la CTA, en effet, parce qu'eux étaient des grands acteurs de ce mouvement-là contre la zone de libre-échange des Amériques pour l'Argentine. Eux ont vu comme central l'effet de prendre les outils de communication eux-mêmes, en fait, de ne pas attendre que les grands médias parlent d'eux. Et ça m'a rappelé énormément, en fait, la philosophie d'Indymedia. eux se retrouvaient dans une situation assez spéciale parce que quand il y avait des grosses grèves en Argentine, leur site web arrêtait de fonctionner.
Juste comme ça, là?
Juste comme ça. Et là, il y avait entre le fait que le fournisseur de services tirait le câble sur leur site web ou qu'ils étaient victimes de la popularité du site. Et puis... Donc, là, ils ont dit, ben ça fonctionne plus, ça. C'est là qu'on a proposé, avec les gens des systèmes informatiques là-bas, qui étaient naissants, là, ce groupe-là, de mettre en place leur propre serveur, en effet, avec leurs propres outils de communication, sans dépendre d'un tierce ou d'un fournisseur de services. Donc, c'est là où est-ce qu'on a préparé un projet de coopération avec la CSN pour appuyer le projet comme tel de mise en place de serveurs ainsi que de sites web. C'était très inspirant, cette partie-là du projet, parce qu'on sentait qu'on donnait la voix, en fait, aux travailleurs, ce qui était carrément ignoré des grands médias.
Puis pour ceux qui sont intéressés, peut-être à connaître un peu plus... les détails autant de ton travail puis le contexte en Argentine. Il y a un événement prévu ce vendredi à Combit.org.
Oui, en fait, mes camarades de Combit m'ont invité à parler un peu de ma situation en Argentine, de la situation de la CTA, et puis d'aller dans les détails un peu plus techniques de l'implantation de ces nouveaux outils de communication-là pour eux. Et en même temps, faut comprendre que les outils de communication pour la CTA étaient très importants, donc il était important de choisir les bons outils. Et puis c'est là qu'on est rentré avec la proposition du logiciel libre.
C'est quoi exactement pour toi la pertinence des logiciels libres dans le contexte de la CTA?
Au niveau de vision politique, en fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, en fait, on a commencé, c'était un peu naturel pour nous. C'était là où est-ce qu'on a comparé le logiciel propriétaire au logiciel libre. Le logiciel propriétaire ne permet pas de partager la connaissance. Donc, pour la CTA, c'était quelque chose qui allait à l'encontre, en fait, des besoins humains du droit de partage de la connaissance, du droit à l'éducation, même à ça, qui était lié à ça. Ça, c'était pas mal inspirant quand t'as des gens qui ont jamais été liés au logiciel comme tel, utilisent des logiciels à tous les jours. Puis quand on est arrivé à débattre du logiciel libre, voir pourquoi on l'adopte et tout ça, pour quelles raisons, ils sont arrivés avec ces raisons-là. Une des premières raisons, du droit à la connaissance. Mm-hmm. En fait. Qui semble une prémisse à pouvoir organiser la société d'une façon plus juste. Tout ça. Ensuite, le deuxième point qu'ils ont soulevé, qui me paraît qui a été très intéressant pour moi de découvrir aussi, parce que c'est pas moi qui ai amené la réflexion, c'est que la CTA lutte pour la redistribution des richesses en Argentine. Présentement, ils sont très concentrés. Et avec le logiciel propriétaire, ce qu'on est venu à comprendre, c'est qu'une fois que la corporation qui produit le logiciel s'approprie du travail du travailleur, s'approprie du temps du travailleur, le programmeur programme une fois, le code est utilisé, ensuite la compagnie revend ce code-là plusieurs fois, qui est un instrument pour accumuler de la richesse, en fin de compte, mais au nom de la corporation. Il n'y a pas une création de biens publics qui est faite avec ça. Fait que ça, c'était une nouvelle perspective. Le logiciel libre empêche la concentration des richesses trop grande à travers ces nouveaux outils-là qu'on est en train de la technologie qui nous entoure de plus en plus.
Dans tout ça, je me demande, ils sont où, dans le fond, les techs et les programmeurs argentins? Puis, je me rappelle que tu m'avais soufflé un mot que les grosses boîtes nord-américaines, en fait, dans le fond, comme IBM, venaient les chercher.
Bien, pour prendre un exemple, oui, c'est ça qui arrivait. C'est qu'il y a une masse de gens qui sont formés en technologie, si on veut, mais quand même assez restreinte, cette masse-là. Et puis, intègre le marché du travail en technologie, parce que c'est quand même relativement facile de se trouver des jobs sur ça, sont formés dans les entreprises, dans les PME locales, assez souvent, parce que c'est ces PME-là qui ont besoin de gens pour donner du support et tout ça.
Excuse-moi, PME, c'est...
C'est les petites et moyennes entreprises, si okay. On veut, de la région. C'était ces organisations-là, ces compagnies-là qui formaient des gens. Puis aussitôt qu'il y avait de la formation qui avait été faite, ou si les jeunes prenaient de l'expérience, avec le temps, les grosses boîtes arrivaient pour offrir des salaires de beaucoup supérieurs à ce que une compagnie en Argentine peut payer à un programmeur. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il y a un exode, en fait, de cerveau qui se passe, mais à l'intérieur même du pays. Là, et donner des services pour des gens à l'étranger, en effet. Donc, en Espagne, en Europe et aussi en Amérique du Nord. C'est ce contexte-là que les gens en Argentine doivent non seulement lutter pour survivre, mais en plus doivent se confronter à une espèce de mondialisation qui se fait sans regard des contextes locaux.
Puis constates-tu que les outils que tu aides à développer, puis la formation, le travail d'autonomisation que tu apportes au CTA aide à confronter ces enjeux?
On amène des meilleurs outils, on amène des outils pour qu'ils puissent communiquer entre eux d'une façon autonome, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, je sens que j'apporte ça, puis je sens que oui, en fin de compte, on peut voir certaines retombées de mon travail, où est-ce que je sens que quand il y a des gros événements que la CTA participe, bien, le serveur reste en place, puis les gens sont informés, puis peuvent aller voir sur des sites web. C'est une des choses les plus concrètes, en fait, là, que je peux dire à ce moment-ci. Mais on travaille toujours dans un contexte à long terme aussi. Ces choses-là, de créer des sites, de s'approprier la technologie, on est au début de cette ère-là, à mon avis. Et puis, on va simplement voir les résultats dans le temps. J'aide à briser les dépendances envers les transnationales nord-américaines qui veulent s'implanter en Argentine.
Sur ce point fort, sur ce beau dernier constat, je vais te remercier, M. Sébastien. Alors, si vous voulez rejoindre Sébastien ce vendredi, il sera à combit.org. L'adresse, c'est le 6833 de l'épée, suite 308. Je répète, 6833 de l'épée, suite 308. Vous pouvez trouver les détails sur le site combit.org, www.combit.org. C'est dans le coin du métro du Parc. Alors, Sébastien va parler en plus de détails de le contexte syndical en Argentine, du CTA, puis de toutes les belles choses qu'il a faites là-bas, d'un point de vue tout autant d'autonomisation technologique que d'autonomisation et de création et publication de médias indépendants.